Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Messi.
Il est 11h05, vous êtes bien dans les grandes gueules du sport sur RMC avec Alizé Cornet, Fred Weiss, David Douillet et Christophe Cessieux. C'est la dernière heure. On parlera voile dans quelques instants avec notre invité Mathieu Perrault, le skipper français qui avait chaviré sur la dernière Transat Café L'Or, se faisant une grande frayeur. Il nous racontera justement son histoire et puis on vous attend aussi au 32-16. Vous ne jouez pas pour rien aujourd'hui puisqu'on vous fait gagner un PC portable Altix 16 pouces garantie 3 ans. Altix, c'est une marque française d'ordinateurs installée à Nantes avec un vrai ancrage local, leur mission, simplifier l'achat d'un PC pour les personnes non initiées à l'informatique. Pour emporter votre PC, appelez le 3216 touche 4, envoyez sport au 73216, sport au 73216. Le vainqueur des jeux du sport tout à l'heure repartira avec son PC portable. Mais d'abord, on va ouvrir tout de suite les GG, la porte du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Jeune, dans mon lit, je rêvais d'être sur le podium avec Simply the Best de Tina Turner. Mais qui a donc pu dire ça, cette phrase? Il s'agit de l'ancien vainqueur du Tour de France et double champion olympique de cyclisme sur piste, Geraint Thomas. Les sportifs sont nombreux à évoquer l'importance de la musique, souvent dans leur rituel d'avant-course ou match pour se détendre, moyen de décompression ou tout simplement de motivation. La musique a forcément joué aussi un rôle dans vos carrières à vous, les GG, et vous allez nous raconter tout ça. Vous allez peut-être devoir nous révéler quelques petits secrets sur des musiques un petit peu honteuses que vous écoutiez aussi peut-être parfois. Est-ce que déjà vous êtes mélomane? Est-ce que vous aimez la musique, écouter de la musique, que ce soit pendant votre sport ou autre?
Ah oui. Tout le temps.
C'est vrai?
La musique, c'est la vie. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Et dans le sport, ça a une importance qu'on a tendance à sous-valoriser.
Ouais.
Parce que vraiment, ça a cette capacité à nous mettre dans une bulle, à nous faire rêver, à activer des connexions neuronales différentes. Et vraiment, la musique a un pouvoir, un vrai super pouvoir. Et moi, je trouve ça très, très compatible avec le sport de haut niveau. On voit d'ailleurs beaucoup d'athlètes rentrer jusqu'au dernier moment avec un casque sur les oreilles. Pour rester dans cette concentration absolue. Et puis il y a des musiques qui nous font vivre des émotions tellement différentes, des musiques qui peuvent nous mettre en mode un peu plus mélo, un peu plus douce, d'autres qui peuvent nous énergiser, nous donner envie de soulever des montagnes. Enfin, c'est vraiment un ressenti très profond. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup utilisé cet outil pendant ma carrière.
Fred?
Pas du tout. Non, pas du tout.
Le contraire m'aurait étonné.
Non, mais réellement, la musique, c'est que quand je suis bien tranquille
pourtant,
chez moi.
Parce que pour dévoiler un petit peu les coulisses des grandes gueules du sport, Fred Weiss, quand il est dans la rédaction de RMC, nous met beaucoup de musique quand même sur son téléphone.
Du rap français aussi.
C'est vrai, souvent.
J'adore la musique, évidemment, mais moi, non, c'était pas mon truc. Moi,
pas dans ta pratique sportive.
C'est pas dans ma pratique sportive. Et pour me détendre, c'était les jeux vidéo. J'étais très jeux vidéo.
Ouais, mais tu vas pas jouer aux jeux.
Quand j'arrivais à la salle, j'étais dans ma bulle, en fait.
T'étais déjà dans ta bulle.
En fait, à partir du moment, j'aime raconter cette histoire, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait ma sieste, j'ai fait mon petit 4 heures, c'est fini, je suis dans le match.
Mais ça en fait partie, hein.
Maintenant. Ton petit 4 heures, je pense qu'ils attendaient autre chose que ton petit 4 heures.
Ma collation. Non, je faisais juste pour ma collation.
En fait, l'essentiel pour un athlète, c'est d'avoir une routine. Flora ne va pas s'en remettre, hein. Je vous annonce là, elle est
déjà. Je pense que. On s'est regardé avec Chris et je pense que tout le monde y a pensé.
Je ne sais pas pourquoi vous avez pensé à ça, mais moi, je rentrais dans mon match.
C'est vrai que ça partait.
À partir du moment où j'étais rentré dans mon match.
Pourquoi ça peut pas être petit en plus, tu vois?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que
ton 4 heures peut pas être petit,
mon frère. En fait, ça va être difficile de continuer. Donc, juste pour dire que moi, ma concentration était interne. J'arrivais très tôt à la salle, je m'asseyais, je ne parlais à personne et je mettais mes chaussures, toujours à gauche. Et voilà.
Donc, mais t'étais quand même routinier.
J'étais très routinier, mais la musique ne rentrait pas dans ça.
Par superstition ou juste pour te rassurer? Parce qu'on parle du tennis, Rafael Nadal avait
J'avais toujours le même caleçon, moi.
Ah, donc toi, superstitieux.
Pendant toute une année, je pouvais porter le même caleçon. Ouais, de temps en temps. Mais je portais le même caleçon, je mettais les mêmes chaussettes. Je savais exactement comment
la musique ne rentrait pas dans ça. La superstition, c'est vraiment typique de l'athlète. C'est vraiment pour garder cette notion de contrôle. On a l'impression que si on fait ça, on met toutes les chances de notre côté.
Ce qui est catastrophique, parce que parfois, il m'est arrivé d'oublier mes chaussettes ou mon caleçon.
Ah, mais t'es en panique.
Et donc, j'étais en panique.
Bah, bien sûr. Par contre, on se rend esclave des superstitions. Et moi, c'est pour ça que j'essaie d'être le moins superstitieuse
possible.
Justement,
ça peut être une superstitieuse que toi avant d'entrer sur
un Non, parce que
cours,
si je l'avais pas, c'était pas grave. D'accord. C'était pas grave. J'aimais bien, mais il y avait des jours où j'en avais pas besoin, mais je m'écoutais. Des jours où je sentais, par exemple, si j'étais un peu plus stressée, j'avais besoin de cet outil-là pour décompresser.
Ou suivant l'état que t'avais, tu avais une musique.
Non, j'avais juste besoin de musique. Après, il y avait quelques musiques en particulier qui vraiment me transcendaient, me donnaient envie d'aller au combat. Et là, je rentrais sur le court, j'avais les dents qui rayaient le parquet.
Du parquet au tennis.
Ouais, enfin, tu sais, c'est une expression, c'est une métaphore.
Ouais, pas terrible cette métaphore-là.
Pourtant, elle est très sympa.
Les dents qui rayaient
le dur, la terre battue.
Ou un truc comme ça.
Voilà.
Oui.
Et non, vraiment, c'était. Pour moi, c'était une partie. Complètement à part entière de ma préparation et de ma routine. Mais l'essentiel pour un athlète, c'est vraiment d'avoir cette routine qui nous permet d'arriver dans le match plus ou moins dans les mêmes conditions. Mais oui, le pouvoir de la musique. Enfin, on n'a pas entendu David s'exprimer, mais je suis très, très curieuse de savoir ton avis, David.
Ouais, je suis resté là.
Il est kéblo.
Oui, il en peut plus. Il est sur 4 heures, lui.
Ouais. Mais lui, on lance pas.
Tombe. Non, mais ton petit 4 heures m'a fait beaucoup rire. Bref.
Mais on peut en partager si tu veux un jour.
Si tu veux, avec plaisir.
Ton rapport à la musique, plus simplement.
Moi, mon rapport à la musique, c'était pas la compète. La compète, j'avais pas besoin de musique, j'avais pas besoin
Comme
de
Fred.
Motivé. Tout allait bien, etc. Par contre, j'avais un besoin absolu de musique pour m'entraîner. Voilà, pour aller courir, pour faire du vélo, pour faire de la muscule. Parce que tout ça me gonfle. Mais à un point que vous pouvez même pas. J'ai jamais aimé courir. Alors le vélo c'est autre chose, j'aime bien, etc., etc. Mais la muscule, c'est tout ça pour moi. C'était laborieux. Voilà, je suis pas en réalité, je suis pas un sportif.
J'ai le même problème.
C'est vrai qu'on en parle pas assez du pouvoir de la musique pour les entraînements aussi. Oui. Parce que c'est ça qui te pousse aussi, qui fait que tu penses pas uniquement à ce que tu fais et ce qui te gonfle sur le moment, mais voilà, il y a un autre sens qui est stimulé, tu écoutes ta musique et tu arrives à trouver une motivation à travers ça, c'est vraiment
j'ai un déficit d'attention, c'est pour ça que je mettais pas de musique en fait, je mets jamais de musique à partir du moment où je suis au boulot, je mets pas de musique parce que c'est pas possible, mon déficit d'attention me permet pas d'être concentré sur la musique et sur ce que je suis en train de faire. Et en plus comme j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens à n'importe quel moment, et ben je peux t'assurer que la musique ne m'aidait pas. Donc c'est pour ça que j'avais enlevé.
C'est très personnel à chacun, hein. c'est ça qui est marrant. Mais on voit quand même que ça reste quelque chose d'assez prédominant. Moi, je le vois dans le tennis. Chaque athlète a ses écouteurs ou son casque sur les oreilles.
Sport individuel aussi.
Et oui, puisque du coup, t'as pas besoin de parler à qui que ce soit à part ton coach. Donc, tu restes vraiment avec toi-même.
On voit aussi des joueurs de foot qui descendent du bus quand ils arrivent au stade, tous ou presque avec un casque sur les oreilles ou des écouteurs déjà dans leur bulle.
Peut-être qu'il y en a certains, c'est pour pas qu'on leur parle aussi.
Oui, c'est ça. Ouais, exactement.
En fait, ils écoutent pas de musique, c'est juste.
Il y a rien dedans.
Exactement.
Pas envie de faire des selfies, pas envie de répondre.
Tu fais croire pour pas que les gens te parlent. Ouais. Tu fais croire pour pas que les gens te parlent, parce que tout le monde te gonfle, tout le monde veut te dire un mot, tout le monde te. Voilà. Et le fait d'avoir un casque, même sans rien dedans, au moins, les gens ne te cassent pas les pieds. Ah, il est concentré. Alors, comme ça. Mais en fait, tu l'es pas du tout. Hein. C'est juste que t'as pas envie qu'on te gonfle. Et c'est très pratique, le casque sur les oreilles. Mais ce que disait Alizé tout à l'heure est tellement vrai. Ça a un pouvoir magique, la musique. En tout cas, pour les entraînements, pour t'entraîner, pour te mettre, pour te faire enfiler le short un peu plus vite et te donner envie, c'est vraiment incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Et pour les entraînements, c'est moi, c'était essentiel. Je pouvais pas m'entraîner.
Alors, qu'est-ce que t'écoutais, toi, David? Ça m'intrigue, justement, pour aller te motiver.
Moi, il fallait une musique forte. Moi, j'avais besoin de hard rock. C'était souvent un CDC.
I Went to Hell. C'est vrai que ça donne envie quand même.
Entre autres. Bah oui.
Ah bah oui, il y a rien de mieux que le rock, de toute façon.
Même quand tu vas à la salle, tu montes dans ta bagnole. Où tu vas à la salle à pied, etc., etc., tu te mets cette musique-là, voilà, ça te donne envie. Si tu te cadres dans le truc, tu te mets dans le tunnel et c'est parti, quoi.
Ça vous inspire, ça. Je sens que. Alizé qui écoutait ici d'ici aussi ou pas?
J'ai envie d'aller courir, là. Je me casse, les gars. Je vais mettre mon collant et je vais courir. Ouais, moi j'étais très rock aussi quand j'étais jeune. Okay. D'ailleurs, j'écoutais beaucoup de Muse qui étaient eux-mêmes très rock à l'époque. Mais. Oh putain, ça c'était ma chanson d'avant-match.
C'est vrai?
Je peux dire que j'en ai gagné des matchs après avoir écouté cette chanson. Même si je sais que Fred va dire que j'en ai pas beaucoup gagné dans ma carrière, le peu que j'ai gagné.
Et comme ça, ça servait pas à grand-chose cette musique.
Ah voilà! C'était après avoir écouté. Mais j'aimais beaucoup les paroles de cette chanson. En fait, j'avais l'impression que je rentrais sur le court et qu'il pouvait rien m'arriver. que j'allais j'allais changer le monde, quoi. Alors que quand on est jeune, on n'est pas Lulu, hein, sur pas mal de trucs. On a l'impression que le monde tourne autour de nous, et les paroles de cette chanson disent en gros, incite à, voilà, à changer ce qu'on est, à changer le monde, à être la meilleure version de soi-même. Et ça me mettait vraiment dans des belles dispositions. Et Muse était très inspirant pour moi à l'époque.
Moi pas. Encore une fois, moi, la musique.
T'es arrivé un temps. Est-ce qu'elle t'a fait réaliser? Bah, Fred, il te remet sur les pieds.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
C'est un casseur de rêve, en fait.
C'est ultra perturbé.
Dans la réalité, dans la triste. Que le ciel est gris, qu'il pleut.
Moi, je suis froid, j'ai pas besoin de musique.
C'est terrible, en fait.
Christophe, il faut que je te dise la vérité. J'ai choisi une musique et on m'a dit on n'a pas le droit de la passer sur RMC.
Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un gros mot dans le titre.
C'est en français ou
en français?
Et donc on n'a pas le droit. Donc moi c'est MC Jean Gabin, pour ceux qui connaissent, et j'avais pas le droit de la passer. Mais moi c'est ça, j'écoutais dans la voix.
C'était très rap, non?
Oui, j'étais très rap et j'écoutais de la musique sur le chemin qui me menait à la salle. Dès que ça c'est fini, je pensais à autre chose. J'étais dans la compétition, j'étais dans la concentration, j'étais tourné sur moi-même et je trouve que la musique m'aurait peut-être éparpillé. Et je n'arrive plus à parler du tout.
Ah oui, c'est...
Oh, on va mettre un disque là, parce qu'elle est un peu plus forte.
Non, mais c'est intéressant aussi de peut-être que vous changiez finalement aussi de style de musique en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous êtes aussi à ce moment-là. C'est ce que tu disais, en fonction de ce qu'on a besoin finalement. Et ce que tu dis aussi est important à liser, c'est que souvent on se dit, bah voilà, moi j'écoute une musique pour me mettre de bonne humeur ou pour machin, nous dans notre vie de tous les jours. Mais toi tu dis que les paroles aussi des musiques que tu écoutais étaient importantes, pas juste le rythme ou le voilà ce qui pouvait être
ça pouvait être important. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'écoutent pas les paroles, je connais pas mal de mes potes qui sont juste concentrés sur la symphonie, sur la mélodie, mais pas sur les paroles. Moi les deux, ouais, les deux avaient de l'impact sur ma préparation. J'avais besoin de m'identifier à ce qui était raconté. J'ai jamais écouté de rap parce que ça a jamais réussi à me transporter le rap. Ouais, mais envoie-moi de la bonne, hein, parce que je suis difficile quand même, hein. Mais c'est vrai que moi la musique ça accompagne chaque pas dans ma vie, en fait. Il y a des moments nostalgiques où il y a avoir... En fait, c'est presque une salle, une ambiance. Pour moi, la musique, ça a vraiment ce rôle-là dans ma vie et ça m'a accompagnée tout du long. Et c'est marrant parce qu'au fur et à mesure de ma carrière, je m'en suis un petit peu détachée de ça.
Ah ouais?
Ouais, c'était vraiment quand j'étais jeune, jusqu'à 25, 26, 27. Et puis après, vers la fin de ma carrière, je suis plus devenue comme Fred, où j'avais juste besoin de silence. Ça doit être la maturité, l'âge. J'avais besoin juste de me retrouver avec moi-même.
Un peu plus tôt que d'autres. Ouais. Moi, c'était les débuts et toi, c'était beaucoup plus tard.
Non, mais c'est pour ça qu'en fait, les besoins changent.
Par exemple, tu le faisais en écoutant de la musique?
Souvent, tout en. L'entraînement aussi. Et moi, c'est très difficile aussi pour moi d'aller courir sans musique, par exemple, parce que c'est...
Non, mais sur un cours de tennis, par exemple, quand tu t'es...
Ah non, mais par contre... la musique sur le terrain, non. J'ai essayé une seule fois avec des écouteurs, mais j'entendais plus le bruit de la balle. Et en fait, c'est très perturbant pour un joueur de tennis de ne pas entendre la balle au rebond et dans les cordes. C'était surtout avant les entraînements, pendant les entraînements physiques qui sont super rébarbatifs. Et donc, du coup, là, tu trouves de la force dans la musique. Et juste avant de rentrer sur le court, où là, tu essaies vraiment de te mettre en mode guerrier. Vraiment, là, en fait, nous, dans le tennis, dans tous les sports aussi, mais il y a vraiment cette notion de gladiateur. On va rentrer tout seul sur un court, dans une arène, contre un autre adversaire qu'on va devoir à distance. Et du coup, il y a des musiques qui te développent cette agressivité, mais cette bonne agressivité. Il en faut, à un moment donné. On peut pas être sportif de niveau sans avoir cette agressivité, cette envie de gagner. Et certaines musiques sont très, très efficaces pour ça.
Ouais, ça transcende, en fait, la musique. Oui, David.
Par contre, on peut pleurer sur de la musique.
Oui.
Ça peut déstabiliser aussi, non?
Non, on peut pleurer après la compétition en écoutant la Marseillaise. Mmh. Et ça, c'est la super.
Musique, finalement.
Rappelons-nous, toi, ton rapport
justement à la Marseillaise et quand tu l'entendais sur les podiums.
Mais ça te prend les tripes, ça te prend la base du ventre et ça te remonte, tout ça. Puis c'est un volcan qui explose, tu vois. T'as la joie, t'as les larmes qui montent. Tu penses à tous les gens qui ont été autour de toi pour faire ce que t'as modestement fait et tout. Puis c'est une espèce de concentration et boum, c'est formidable et ça te fait pleurer.
C'est pas possible.
Et pourtant, les paroles de cette Marseillaise, elles sont quand même, elles sont violentes.
C'est d'un autre temps.
Ah ben, c'est de la guerre.
Maria, là, en l'occurrence.
Oui, nous, c'est marrant, en équipe de France, donc en Coupe Davis et en Feu Fed Cup, oui, / Billie Jean King Cup, on écoute.
Tu le dis super bien, moi, chaque fois.
Bah, c'est depuis que je suis capitaine, je me suis
Billie
améliorée.
Billie Jean King Cup,
ouais. C'est pour ça qu'ils l'ont signé, tu peux pas le prononcer.
Il faut savoir le prononcer.
En fait, on chante la Marseillaise avant les rencontres. Et ça, c'est un des moments les plus forts. Moi, j'ai eu un moment très fort.
Moi, ça m'aurait gêné. Hein.
Avec la musique, mais au contraire, moi aussi, j'aurais pensé que ça me gênait. Mais en fait, avant la finale contre l'Australie, quand on a gagné en 2019, il y a eu cette Marseillaise incroyable où, en fait, on est à l'autre bout de la planète. On est en Australie. Et on était censé, en fait, quand on chante la Marseillaise tous ensemble, on se tient, donc le capitaine et les cinq joueuses, on se tient par les épaules et on chante à tue-tête. Et en fait, on était censé être dos à notre staff, donc dos au banc, et en fait on s'est tous retournés d'un seul homme et on a chanté la Marseillaise face à notre banc, face à notre staff, et on s'est mis on avait des larmes aux yeux. Il y a eu un moment très très fort qui s'est créé à ce moment-là, et en fait on aurait pu penser que ça aurait pu nous sortir de notre rencontre, de notre match, mais en fait ça a créé une sorte de, ça nous a soudés, ça nous a fédérés en équipe. Et en fait cette Marseillaise, elle a, je sais pas comment expliquer, mais elle a vraiment elle a mis en exergue une sorte d'émotion d'équipe. Ouais, elle a créé l'équipe, ouais. Et on est allé chercher. Et je pense que ça, on est allé chercher la victoire, et ça a vraiment créé un souvenir très fort dans cette rencontre.
Nous, en basket, on fait ça tout le temps. C'est toujours avant la Marseillaise, et moi, je trouve que c'est le moment justement où tu rentres dans le match le plus.
Ah ouais.
Parce que en plus, que moi, je suis un enfant d'immigré, donc forcément, pour mes parents, c'était très impressionnant la Marseillaise. Donc, je la chantais à tue-tête. Je plains les gens qui étaient à côté de moi, d'ailleurs.
Surtout avec cette voix-là.
Voilà, c'est difficile.
Très belle voix.
Mais non, là, je suis pas super en forme là. Mais c'est vrai que pour nous, c'était le moment qui te faisait passer de on s'échauffe, on rentre dans le match tranquillement, là on est dans le match, là on représente notre pays, là on a la fierté de représenter notre pays, et c'est vrai que juste après on avait les poils, en fait, rien que d'y penser, j'ai encore les poils parce que c'est quelque chose de tellement impressionnant de chanter la Marseillaise, de représenter son pays, et rien de plus beau, et le meilleur des symboles c'est évidemment la Marseillaise.
Et puis tu sens une énergie qui passe entre les membres de l'équipe, il y a vraiment quelque chose d'un peu mystique qui se produit à ce moment-là.
Ouais, et on voit, et d'ailleurs parce qu'on parle de ces Marseillaises là, mais moi je pense en rugby, Chris, souvent les hymnes nationaux sont ultra vécus vraiment profondément par les joueurs qui sont souvent en pleurs, et du coup c'est vrai que c'est particulier.
C'est toujours étonnant de voir des gros costauds qui sont prêts de défoncer la gueule et qui ont des grosses larmes
et qui juste après se transforment, tu vois,
juste avant le match. Je sais pas si c'est propre au rugby, parce que
tu vois moins ça en foot quand même, en tout cas.
En foot, pendant très longtemps, la tradition voulait qu'on ne chante pas la Marseillaise. Hein, à l'époque de la grande époque de Platini, personne ne chantait la Marseillaise. C'est venu petit à petit, et c'est vrai qu'en rugby, ils ont plus la tradition de chanter la Marseillaise, mais
c'est un sport de combat, les amis. Hein. Le rugby, c'est un sport de combat, hein. C'est autre chose. Hein.
Ouais. Oh, mais nous, au basket, on chante aussi.
Tu chantais la Marseillaise sur le podium. Je me rappelle plus si tu avais chanté la Marseillaise à Sydney, David.
Oui.
Sur le podium,
Non, j'ai pas réussi à ouvrir la bouche, j'étais tellement effondré. Non, mais vraiment. Franchement, Fred, c'est pas pour te cirer les godasses, mais le basket que je connais un peu à travers mon fils, je trouve que c'est aussi un sport de combat. Ça frite quand même beaucoup sur le parquet, comme le rugby. En foot,
j'aime beaucoup David Douillet.
C'est mon avis.
Mais moi, je me demandais, du coup, parce que tu vois, on parle des rugbymen qui pleurent, justement. Tu parlais, toi, Fred, des frissons que tu avais. Ça ne vous sort pas du match à ce moment-là?
Ça te fait rentrer. Parce que
l'émotion est forte, quand même. Donc, il faut arriver à...
En fait, ce qui se passe, c'est que tu prends plein visage, plein dans la tronche, le fait que tu représentes ton pays.
Mais justement, pression énorme.
Non, fierté. Fierté incroyable de se dire, j'ai la chance d'être là, de représenter mon pays. Il y a, je sais pas combien de joueurs de basket en France, et moi, j'ai la chance d'être là pour représenter mon pays. Quel plaisir, quel bonheur.
Il y a une révélation, en fait.
C'est incroyable. En fait, tu le sais. Mais ça te le met vraiment en pleine tête, quoi.
Il y a une nouvelle tradition au Stade de France pendant les matchs du tournoi des Destinations, ou les matchs de l'équipe de France, c'est que les premières paroles, enfin l'air de la Marseillaise est joué par l'orchestre, et derrière on laisse le public
a cappella,
et là je pense que la transmission du public vers les joueurs, là ça doit faire
ça doit être magnifique, mettre des frissons incroyables. Là aussi, c'est en fait ce qui se passe, c'est que il y a une communion avec le public là, et quand tu joues à la maison que tout le monde a capé là reprend la Marseillaise. Oh, c'est incroyable. Tu fais du sport pour ça en fait.
Et ce qui est fou, c'est que il y a des musiques aussi qui marquent le sport français plus largement. Alors
là,
c'est des musiques.
Saga Africa.
Ça n'est pas venu en premier, tu vois.
Non, bizarrement. Non, mais aujourd'hui, tu vois par exemple le fameux Freed from Desire de Gala qu'on entend à toutes les compétitions et qui est, alors pour nous, qui nous a marqué nous en France, mais qui est repris partout maintenant.
Tu veux quand même dire libérer du désir, mais ok.
Oui, mais tu vois, on parlait de l'importance des paroles tout à l'heure. Ça ne l'est pas pour tout le monde. Bah, I Will Survive, c'est une chanson d'amour quand même à la base.
Ouais.
Ah, ça y est, t'en as marre.
Oui, mais il y a quelque chose de.
Plus l'entendre à la fin.
Il y a quelque chose de l'ordre de la rébellion dans cette chanson. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la rébellion. Je m'en sortirai, je vais survivre, j'ai pas besoin de toi. Enfin, il y a quelque chose quand même de très.
Alors, toi, t'as été très attaché aux paroles.
Oui, un petit peu, oui, j'avoue.
Mais je suis sûr que 95% des gens n'ont jamais essayé de comprendre les paroles de la chanson.
First I was afraid. Ouais, I was petrified.
C'est ça, les gens ne font pas attention.
Là, par exemple, la nouvelle chanson à la mode dans les stades de rugby, c'est Dans les yeux d'Emilie de Joe Dassin. Je veux dire, pour essayer de trouver quelque chose.
Ben, on a eu ça au basket, on est vraiment ravis de vous l'avoir donné. Parce que c'est une catastrophe.
C'est génial cette chanson.
On est super contents de le voir.
Comment Joe Dassin s'invite dans les stades de rugby?
C'est incroyable.
Parce que c'est repris en cœur, mais.
Tous les rugbymans de France et Navarre, tous les supporters connaissent les paroles de.
C'est vraiment identifié au rugby cette chanson en plus. Mais moi, dès que je l'écoute, je vois des joueurs de rugby chanter à tue-tête.
Je suis désolé de vous dire ça, mais non. C'est identifié au basket.
J'ai dit pour moi. Fred, j'ai dit pour moi. J'ai dit pour moi.
Comme
les rugbyman n'arrivent pas à être tout seul, à avoir des idées tout seul, ils sont obligés de les voler aux autres, donc ils nous ont volé ça. Mais encore une fois, là, on vous la laisse sans problème.
T'as raison.
Force est de constater qu'aujourd'hui, effectivement, les yeux d'Emilie est fortement associé, en tout cas, au rugby, Fred.
C'est-à-dire que l'équipe de France de rugby fédère plus que l'équipe de France de basket. L'équipe de France de basket, c'est une fois tous les 4 ans que t'en entends parler. Alors, le rugby.
L'équipe de France de rugby, on jamais parlé. Hein.
C'est génial de voir ces chansons qui deviennent des hymnes, en fait. Des hymnes à chaque sport spécifiquement.
Les yeux d'Emilie, un hymne du sport.
Mais on ne peut pas dire le contraire.
Mais oui, on
l'entend à chaque rencontre de rugby.
Ça ne représente rien du tout. C'est n'importe quoi.
Il est jaloux,
pas fait pour le
jaloux, en fait. Il est
tu vois, on revient au débat initial, tu vois, sur la jalousie entre les sportifs, entre les sports. Voilà.
Je sais pas, il a une haine.
Il a un besoin d'exister.
Le rugby lui a piqué une partie de sa vie. C'est bizarre, ça, quand même.
C'est vrai qu'il y a une
force. Tu devrais consulter, franchement, tu devrais t'allonger.
Moi,
j'aimerais bien connaître les goûts des auditeurs aussi. Pour
heureusement que Fred il a pas fait de rugby parce qu'il aurait déménagé.
En deuxième ligne, il aurait récupéré tous les ballons.
Il aurait dératousé, il aurait ventilé, il aurait éparpillé. Voilà. Et il a fait que du basket. Il a été mesuré dans son
action. J'aurais bien aimé voir quelqu'un qui plaque le grand Fred lancer
bon
à
courage.
Vitesse.
Oui, bon courage. Merci à vous les GG. On va refermer la porte du vestiaire. Il est 11h27. Sur RMC. On revient dans quelques instants. Le skipper français Mathieu Perrot sera notre invité pour nous raconter son histoire folle lors de la dernière Transat Café Laure. Et puis sans oublier évidemment les jeux du sport. Venez participer avec nous et remporter peut-être un PC portable. On vous attend au 32-16. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
Il est 11h30 sur RMC. Les grandes gueules du sport continuent jusqu'à midi. C'était pas obligé d'avoir les yeux d'Emilie déjà pour le retour.
C'est bon, Fred.
Chris, hein, c'est ta faute, tout ça. Enfin,
il était triste que le rugby lui ait piqué sa jambe.
Alizé, elle a dans la tête pour les 3 prochains jours.
Ah ouais, c'est sûr.
Faut le savoir. C'est vrai que c'est une chanson qui reste quand même vraiment en tête. Pour s'en défaire après, c'est difficile. Les jeux du sport dans quelques instants aussi avec un cadeau exceptionnel à gagner pour le vainqueur, un PC portable Altic. Pour cela, vous appelez le 32-16 ou vous envoyez sport au 7-32-16. Mais d'abord, sur le buzzer, les GG reçoivent un invité aujourd'hui.
RMC, les GG sur le buzzer.
On parle souvent d'eux comme des aventuriers des temps modernes. Que faut-il bien avoir dans la tête pour prendre la route en pleine mer et se lancer à travers le monde, parfois au risque de sa propre vie? Eh bien, on va poser la question à un skipper français, Mathieu Perrot, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Alors, on va allumer le micro. Hop, voilà c'est parfait.
Bonjour à tous, merci.
Alors, déjà, comment ça va, Mathieu? Tu vas nous parler évidemment de tes péripéties que tu as vécues avec ton co-skipper lors de la Transat Café Laure. Comment ça va aujourd'hui?
Comme vous tous, je sors d'une petite grippe, donc je suis un peu fatigué, mais non, ça va très bien.
Et t'as pas le mal de mer, de mal de terre quand t'es sur la terre?
Non.
Non?
Non, non, mais
t'as pas le mal de mer. C'est le mec qui pose une question complètement. Et le mal de mer.
Ça arrive, hein. Les skippers ont la mal de mer.
Ouais, il y a plein de skippers qui ont le mal de mer, ouais.
Ah, c'est drôle.
En l'occurrence, moi, ça m'arrive pas. J'ai de la chance.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Mais c'est non, drôle, je sais pas si c'est drôle.
En général, t'as le mal de terre quand t'as passé pas mal de temps en mer.
Mm-hmm. Et ça disparaît au bout d'un moment.
Ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement.
Alors, voilà, il faut que tu nous racontes alors cette mésaventure que tu as vécue et que tu racontes dans un court métrage qui est disponible d'ailleurs sur YouTube intitulé Le jour où tout a basculé. Je vous invite à aller le regarder parce que les images sont impressionnantes aussi. Où vous racontez avec votre co-skipper Jean-Baptiste Gelé le moment justement où le bateau a chaviré lors de la dernière transat Café Laure. Que s'est-il passé à ce moment-là?
Déjà la transat Café Laure, nous c'est notre objectif annuel, c'est un peu le gros match de l'année. Et c'est donc une transatlantique entre le Havre et les Antilles. On se prépare toute l'année pour ça, c'est un truc que tu veux accrocher à ton palmarès de sportif. Voilà, pour une fois on était super bien prêts, même favoris, donc c'était un beau départ. On a fait un beau départ. On est parti sur les chapeaux de roue, dans beaucoup de vent, et on avait fait décaler le départ avec l'organisation de course pour partir dans des conditions plus maniables. On n'a pas vraiment prouvé le.
Vous êtes parti avant, c'est ça.
On est parti 24 heures
avant. Ouais.
Ouais, et en fait, effectivement, le vent était moins fort, les vagues étaient moins fortes, mais il y avait beaucoup d'instabilité, et c'est ce qui est très dur pour nous à contrôler. Et voilà, donc on en a passé une nuit dans 30-35 nœuds de vent, c'est à peu près le double en kilomètre heure. Donc beaucoup de vent, mais rien d'insurmontable pour nous. Et à voir beaucoup de nuages, beaucoup de grains sur nos radars, sur nos infos. Et en fin de nuit, on commençait à se détendre un peu, le vent était un peu moins fort. Et voilà, et là on était surpris par une rafale de vent.
5h du mat, boum, d'un seul coup, la vie bascule quoi. La course bascule en tout cas.
Ça s'est passé en combien de temps? En quelques secondes, quelques minutes?
Je pense qu'en tout et pour tout, peut-être en 8 secondes le bateau est à l'envers.
Donc,
ah,
le bateau complètement
le
à l'envers.
Percute, etc., en 4 secondes.
Donc, faut raconter. Ton bateau,
c'est un. Comment vers l'avant?
Il y a David qui te demande comment il a basculé le bateau.
Le bateau a chaviré par le côté, donc on est un petit peu penché, mais pas trop. Et d'un coup, le vent tourne un petit peu et augmente fortement. Et donc, le bateau, en fait, gîte et finit par se renverser.
Et là, tu te trouves à quel endroit à ce moment-là, quand le bateau. Vous êtes sur la coque centrale, parce que c'est un multicoque, on rappelle, faut expliquer pour nos auditeurs.
Exactement. C'est donc un trimaran qui a trois coques. Une coque centrale dans laquelle on vit et deux flotteurs dans laquelle il se passe à peu près rien.
Et donc t'es dans la coque centrale et d'un seul coup, bim boum badaboum. Exactement. La tête à l'envers.
Ça paraît fou parce que c'est quand même hyper stable ce genre de bateau.
En plus, vous étiez relâché un petit peu, comme tu dis, ça allait un petit peu mieux et d'un seul coup, ça te.
Je dirais pas qu'on était vraiment relâché, on était moins préoccupé par les conditions. Quoi. Mais c'est des bateaux où t'as les cordages tout le temps dans les mains. On sait que ça peut arriver, c'est le truc qui nous fait peur à tous. On est tout le temps très concentré sur ce truc-là. Et voilà, et on était hyper concentré, on passait à la pointe Bretagne, on était très proche des cailloux. Et le vent rentre, et en quelques secondes, le bateau se retourne. T'as quand même le temps de percuter, tu comprends, donc on se jette dans la coque centrale. Et on se retrouve dans le bateau qui est complètement à l'envers. Là, c'est comme si tu coupes le son, quoi. Il se passe plus rien. Tout est devenu très calme d'un coup. Et tu te regardes dans le blanc des yeux en mode waouh.
On est quand même content d'être deux, j'imagine aussi à ce moment-là, de pas vivre ce moment-là tout seul.
Et d'être au large de la Bretagne et pas au large de l'Antarctique,
si loin,
peut-être aussi, non?
Oui, parce que vous n'êtes pas si loin des côtes à ce moment-là aussi, c'est ça qu'il faut rappeler.
Paradoxalement, c'est le seul truc qui nous a fait peur, ça.
Ah ouais?
Parce qu'en fait, on était vraiment très proche des cailloux. En fonction de la dérive, en fait, on sait que chavirer, c'est un drame parce que c'est la fin de la course, c'est la fin de l'objectif sportif et ça va coûter des sous à tout le monde. Néanmoins, chavirer, c'est un truc qui peut arriver à ces bateaux-là, on sait les réparer, on sait gérer ça. Par contre, si on le met dans les cailloux et qu'on n'arrive pas à le ramener à la maison, là, c'est notre actif, vraiment ce qui coûte cher dans ces projets qui disparaît, quoi.
Vas-y, David.
Est-ce que t'as peur de couler?
Non.
Non.
Il n'y a pas de voie d'eau, il n'y a pas de.
À aucun moment, j'ai eu peur pour ma vie, déjà. Et t'as pas peur de couler. L'avantage des trimarans, c'est qu'ils ont trois coques, plus les bras de liaison qui les relient. Il y a quand même beaucoup de compartiments fermés et Coulien Trimaran, c'est.
En plus, tout s'est passé.
Je sais pas si tes coques, t'as une coque qui peut se fissurer.
Ça peut être endommagé.
C'est carbone, vos bateaux, non? Ou en fibre de verre. Donc, quand tu chavires, tu sais même pas pourquoi t'as chaviré. T'as le truc, il peut y avoir les coques qui se sont fissurées, tu peux prendre la flotte. Enfin, tu peux couler quand même, non? Tu peux pas couler. Jamais.
Moi, bon, couler, c'est vraiment exceptionnel avec ces bateaux.
C'est un monocoque éventuellement, mais.
Ouais. Non, les trimarans Ocean 50, sur quelques vingtaines d'années d'existence, aucun bateau n'a été perdu sur un chavirage. À chaque fois, on les ramène à bon port à l'envers. On les remet à l'endroit, on les répare et c'est reparti.
Alors, derrière, dans votre malheur, il y a tout qui se passe quand même relativement bien. C'est-à-dire qu'il y a un autre bateau qui est pas très loin, donc qui peut remorquer ton bateau. Vous êtes élitreillé quoi, moins d'une heure après avoir chaviré, ramené à terre. Dans votre malheur, finalement, derrière, ça se passe plutôt bien. Et vous réussissez à ramener le bateau à quai, à Brest. Vous avez fait les réparations derrière. Derrière ce coup dur, finalement, dans votre malheur, il y a eu des trucs positifs quand même.
Ouais, super positif, honnêtement. On s'appuie sur une équipe avec un terrain best-selling team qui est folle. Et c'est ce qui ressort de cette expérience-là, qui, pour nous, skipper, un échec sportif, mais par contre, pour nous, entrepreneurs, une réussite de dingue parce que sur le quai à Brest, c'était 15 personnes qui nous attendaient et à qui on n'a pas demandé de venir, quoi. Évidemment, tout le monde était là, tout le monde est venu, resté 4 jours. En fait, il s'est passé 4 jours comme ça, de phase où chaque jour, il y avait un grand truc. Tu ramènes le bateau, tu le remets à l'endroit, tu le ramènes à la maison, tu le sors de l'eau pour le mettre dans le hangar. Et il s'est passé toutes ces phases de façon hyper enchaînée. Et là, on a vu la force d'un collectif vraiment exceptionnel, quoi.
Et comment t'as géré la déconvenue sportive? Ça t'a mis combien de jours pour digérer
J'ai l'impression que c'est pas digéré.
C'est pour ça que je pose la question. Je sens que c'est encore un peu à fleur de peau. Ouais. Donc
Non, en fait, pour moi, le truc le plus violent, je pense que ça peut te parler, c'est que t'es en train de vivre une finale, quoi. T'es hyper concentré, donc il n'y a pas vraiment de notion de temps, tu vois, dans ta tête. T'es hyper focus et d'un coup, ça s'arrête et tu te retrouves
dans la réalité, quoi.
Et là, t'as beau, tu vois, on est revenu sur les datas, on est revenu sur le pourquoi, sur comment on pourrait faire pour éviter encore plus ces trucs-là, mais je sais pas de répondre à cette question, franchement.
Mais t'as eu besoin de le raconter dans un court-métrage, quand même, finalement.
Ouais, alors on est.
Est-ce que ça t'aide? Est-ce que t'avais besoin de le raconter ou tu voulais juste faire participer un petit peu tout le monde à cette aventure, entre guillemets?
Bon, il y a plein de visées à ça. D'abord, on est un projet de marketing pour des entreprises. Ça, on est assez lucide là-dessus. C'est des sports qui vivent du sponsoring. Et sans le sponsoring, on fait rien. Donc, on raconte ce qu'on fait. On est des raconteurs d'histoires. On le dit souvent. Cette histoire-là est presque plus intéressante qu'une troisième place, tu vois. On aurait préféré faire une troisième place.
ça fascine les gens.
La course.
Non, mais ça fascine les gens. Comment est-ce que tu gères?
C'est fascinant, forcément.
Ouais. Et il se trouve que du coup, la partie médiatique fait partie de nos préoccupations. Là, nous, on bosse avec un médiaman qui est la personne qui a réalisé ce court-métrage. Et c'est moi qui le raconte, mais c'est lui qui devrait être là. Hein. C'est l'artiste. Et qui est devenu un pote. Et donc, il se trouve qu'il est dans la maison avec toute l'équipe au Havre au lendemain du départ, enfin la nuit du départ. Et en fait, il est resté avec nous. Il est resté avec l'équipe. Il est venu à Brest. Il a récupéré les images de la marine. Et en fait, on n'a rien demandé à personne. C'est lui qui a tout filmé. Il est resté sur toutes les étapes. Il est même revenu au croisic quand le bateau revenait.
Et est-ce que tu penses que
ces documents, ces images pour nous, elles sont hyper importantes.
Est-ce que tu penses qu'il y aura de l'appréhension sur ta prochaine course vis-à-vis de ce qui vient de vous arriver? Ça va rester dans un coin de ton esprit ou tu vas te dire tu vas complètement passer à autre chose et partir sur des nouvelles bases?
Honnêtement, c'est la question numéro une qui reste. Il y a deux trucs. Je suis déçu d'avoir raté cet entraînement. Parce que le gros truc qui arrive, c'est la Route du Rhum. C'est la même chose, mais en solitaire. Seul sur le bateau. Donc on a déjà montré, parce que là, il y en a quand même trois quand je chaviré la même nuit, que ces bateaux-là étaient chauds. Là, on va refaire ça en solitaire. Donc ça, c'est un bon step au-dessus en termes d'engagement.
Parce que y a, moi, j'ai connu un marin qui avait chaviré par l'avant. Il paraît que c'est hyper impressionnant que tu te vois mourir, t'es catapulté, etc. Et il m'avait expliqué qu'il voulait plus remonter sur le bateau, sur ce type de bateau-là en tout cas, mais plus du tout. Ça a été terminé. Il a arrêté sa carrière là-dessus parce que il a eu trop peur. Et est-ce que tu es dans cette situation-là où tu vas réussir à surmonter cette affaire?
Alors, tu le vois pas, mais il a un petit sourire avant de te répondre, Mathieu.
Non, moi, j'ai qu'une envie, c'est de remonter dessus. J'ai pas eu peur, honnêtement.
T'as jamais eu peur au moment où tu chavires, au moment où le temps que les secours arrivent, le temps que vous soyez ramené aussi.
T'as pas peur que ça va trop vite ou t'as pas peur parce que t'as confiance en ton équipe? Un peu des deux, peut-être.
T'as pas peur parce que ça va trop vite, surtout.
T'as pas le temps de réfléchir.
Comme souvent dans ces sports, tous les trucs un peu extrêmes que tu fais, t'as éventuellement peur après, mais sur le moment, on est complètement en réflexe, donc t'as pas le temps d'avoir peur. Et après, ouais, les questions qui restent, c'est du coup comment je vais me sentir la veille d'une course. Parce que aller naviguer, on a déjà fait une navigation sur un bateau du même type là, il y a quelques semaines, pour emmener des partenaires, une organisation avec deux bateaux. Donc, on a fait une petite nave avec JB sur le bateau, et c'était quand même, je sentais qu'il y avait quand même un peu d'émotion pour le truc. Et on dit souvent qu'il faut remonter sur le cheval, mais malheureusement, nous, le cheval, quelques mois à le réparer.
Il est à l'écurie, ouais.
Donc après, on va naviguer sur d'autres plus petits bateaux. Je vais essayer de bosser le truc.
Ça va être un vrai travail. Tu es en train d'expliquer, ça va être un vrai travail pour te remettre dans le truc normal, quoi.
En fait, aller d'un point A à un point B, c'est pas forcément si dur avec ces bateaux. Ce qui est dur, c'est d'aller plus vite que les autres, quoi. Et c'est toute la notion de curseur, où tu mets le curseur. Parfois, il faut laisser les autres partir parce que tu sais qu'ils vont trop vite. Néanmoins, si tu les laisses partir trop loin, tu n'arriveras plus à les rattraper. Donc, tout le jeu, il est là-dedans. Et c'est de savoir, la route de Rome, je vais y aller. Je suis assez confiant sur le fait que j'y aille. Sauf si je ne me sens pas être la bonne personne la veille, je serais capable de le dire, je pense. Mais,
qu'est-ce qui fait la différence entre ces bateaux-là et les autres? Bon, les monocoques, ceux qui font, par exemple, le Vendée Globe, on sait, c'est une seule coque. On voit les ultimes, Coville en ce moment, qui est en train d'essayer de battre le record, le Jules Verne. Là, c'est le même genre de bateau que toi, mais encore plus gros, encore plus puissant. Ouais. Et on a l'impression que c'est vos bateaux, cette classe-là, qui est la plus dangereuse. Pourquoi?
C'est très bien analysé. Pourquoi?
Ah, il est fort, ce Christophe.
Ouais.
C'est surtout sa première bonne intervention de la journée.
Oh. 11h43, il était temps en même temps.
Il était temps, ouais. Il m'a fait 17 minutes.
La grosse différence avec un monocoque, c'est qu'il n'y a pas de quille. La quille, c'est le machin en plomb qui empêche un bateau de chavirer. Nous, on n'en a pas, comme tous les multicoques.
Effectivement, du coup, c'est un petit peu plus risqué, a priori, déjà sur le papier.
C'est très puissant parce que très large. Mais par contre, une fois que tu es en surpuissance, ça devient vite dangereux. Et la grosse différence avec les ultimes, déjà, ils sont deux fois plus longs que nous. Donc nous, on a des bateaux de 15 mètres et demi, ils ont des bateaux qui font 32 mètres. Mmh. Et ils volent.
Oui, c'est vrai, avec les au-dessus foils, de l'eau.
En fait, ça les affranchit de beaucoup de contraintes. Et par exemple, ils ne chavirent plus par l'avant. Ce qui était ce que disait David, le risque numéro 1 sur nos bateaux.
Quand
en fait,
tu
de planter dans une vague.
Tu plantes dans une vague, ouais.
Et là, nous, c'est pas ce qui est arrivé cette nuit-là. Cette nuit-là, il n'y a pas beaucoup de mer, c'était vraiment des grosses rafales de vent qui te mettent à l'envers comme une crêpe. Et les ultimes sont paradoxalement plus safe parce qu'ils volent.
Ils sont plus chers aussi.
Ils sont beaucoup plus chers. Et nous, en fait, on tend à être une classe assez homogène sportivement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans notre classe. On se considère un peu comme des mobilettes, c'est des bateaux qui vont vraiment très très vite, très facilement. Et ce que je disais tout à l'heure, ce qui est dur, c'est d'aller plus vite que les autres. D'aller vite, on va tous vite, très rapidement. Et après, c'est de trouver ce curseur. Il y a des bateaux de 2009 et des bateaux de 2020. Trois qui se valent quasiment en perf. Et c'est ça qui est hyper intéressant. On a un plateau de 11 bateaux. Et... Là, à la route du Rhum, je pense que tout le monde peut gagner.
Ouais. C'est un pilotage très pointu, quoi. Donc, c'est sur le fil du rasoir en permanence, c'est ça?
Ouais, exactement. Et là, comme on l'a vu là, en 4 secondes, si t'as pas choqué la voile...
Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, si tu pars sur la route du Rhum, tu vas devoir être alerte et concentré H24, t'as pas de temps de repos, t'as pas de temps où tu peux te permettre de relâcher un petit peu la pression et peut-être laisser le bateau un petit peu plus en autonomie, si je puis dire.
Si, parce que tu peux pas.
Ouais.
Je dormir. Si tu demandes de conduire 10 jours sur l'autoroute, il y a bien un moment où il faudra dormir. Mais c'est exactement cette comparaison-là. C'est sur une voiture lancée sur l'autoroute.
Et c'est à toi de choisir quand est-ce que le temps de repos le plus le moins risqué finalement à prendre.
Le moins risqué et le plus stratégique.
Ouais.
À quel moment, si je lâche, je perds le moins? Et à quel moment j'aurais pas le droit de lâcher? Paradoxalement, c'est souvent dans le petit temps, quand il n'y a pas de vent, qu'on se dit là, faut pas lâcher.
Quand il y a pétole.
Ah oui.
Parce que les différences de vitesse entre les bateaux sont énormes, alors que dans le gros temps, on va tous vite. Et à la limite, si tu dors. Donc en fait, il faut dormir quand le vent est stable.
C'est les temps de repos de combien? Comment tu peux te reposer?
Un quart d'heure, des 16 quart d'heure.
Voilà, c'est des micro-siestes, c'est des.
20 minutes.
Oh, ah oui.
Un truc comme 20 minutes max, je pense.
Ok, mais plusieurs fois, beaucoup, très souvent.
Quand tu fais le Vendée, tu, à un moment, tu es obligé de dormir un peu plus quand même quand ça dure. Ouais.
Les bateaux sont moins chauds.
Les bateaux sont moins chauds, mais les océans sont peut-être un peu plus chauds. Quand tu es dans les mers du Sud, on en parlait tout à l'heure. Je sais pas si tu as déjà été dans ces contrées-là.
Non, mais je suis bien leur perf. En fait, eux, c'est le même jeu, hein, c'est de se dire à quel moment il faut que je m'accroche à un système météo, que je m'accroche à un concurrent. En fait, on a des enjeux stratégiques un peu tout le temps. Et on dirait comme ça que c'est un sport de course, mais en vérité, c'est un sport de...
d'échecs.
Ouais, c'est presque des échecs, je suis d'accord, c'est presque des échecs finalement.
Ouais. En fait, la vitesse, si tu l'as pas, tu gagnes pas.
Ok.
Mais par contre, après, il faut aller au bon endroit. Et c'est vraiment un jeu d'échecs, il y a même un peu d'intox.
Il y a du trash talk.
Il y a du trash talk.
D'un bord à l'autre, ils prennent un porte-voix.
On en revient au débat initial, finalement.
Il faut courir quand même, hein, de temps en temps, quand il y en a un qui chavire.
Il y a de la solidarité quand même, alors.
Ça, c'est la constante.
Ouais. Bon, le départ pour la route du Rhum, c'est quand alors?
C'est le 1er novembre.
Ah oui, donc il y a énormément de temps, le bateau a le temps de se remettre sur pied là. Non, c'est pas si long que ça. C'est ça que t'es en train de me dire.
Il faut expliquer que quand un bateau se retourne, il perd son mât. C'est automatique. Hein. Il y a pas de.
Oh, il casse le mât.
Il casse le mât. Ouais.
Pas perdu, mais il
est. Ouais. Donc vous l'avez récupéré.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on en fait de ce mât cassé? On arrive à réparer ce genre de truc ou il faut complètement refondre?
On pourrait, mais là en fait, les cordages qui sont dans le mât ont déchiré le mât. Mmh. Il est déchiré. En plus d'être cassé net à un endroit, il est déchiré sur quasi la longueur. Donc il est mort.
Donc ouais. Donc on repart complètement à zéro.
Et donc
avec
il le met devant chez lui pour montrer voilà le mât qu'on a cassé.
Voilà les dangers du métier que je fais aujourd'hui.
C'est un petit presse-livre.
C'est pas mal.
Merci beaucoup Mathieu d'être venu nous voir dans les grandes gueules du sport sur RMC. C'était très intéressant. Allez voir ce documentaire sur YouTube.
Le doc a regardé.
Le jour où tout a basculé. Ouais. Voilà, ça dure une vingtaine de minutes, pas plus. Vous pouvez aller voir ça. Ça se regarde très facilement et c'est très très intéressant justement pour comprendre un petit peu les risques aussi que vous prenez au quotidien. Merci beaucoup Mathieu. 11h47 sur RMC. Les grandes gueules du sport reviennent pour le grand moment de la matinée. Les jeux du sport, c'est juste après ça.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Florent,
11h49 sur AMC, c'est la dernière ligne droite des grandes gueules du sport et il est l'heure de jouer. Christophe Cessieux, Alizé Cornet, Fred Weiss et David Douillet sont au taquet. C'est parti pour les jeux du sport.
RMC, les jeux du sport.
Et beaucoup d'enjeux, on vous le rappelle aujourd'hui, parce qu'un PC portable de la marque Altic, marque française, a remporté. Ce sera le vainqueur du jour qui repartira avec. On va accueillir nos deux auditeurs déjà, Patricia et Clément. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
J'espère que vous êtes en forme. Je vais vous donner les équipes dans quelques instants pour savoir qui vous choisissez. Je vous rappelle juste les règles. Un point par bonne réponse, une question à élimination et deux points pour l'équipe qui la remporte. Si vous donnez une mauvaise réponse lors des questions, vous ne pouvez plus répondre à la question. Il y aura aussi une question impossible pour tenter de remporter plus de points, mais à vos risques et périls. Les équipes du jour, on va faire Christophe avec Alizé, Fred avec David. C'est bon pour vous ? Christophe, il est dégoûté.
Contre les gazelles, en fait.
Patricia a appelé en premier. Patricia, c'est toi qui vas choisir ton équipe aujourd'hui. Christophe, Alizé ou Fred, David?
Fred, David.
Très bien, Patricia.
Très mauvais choix.
Et du coup, Clément, tu seras avec Christophe et Alizé. Est-ce que vous êtes prêts? On va faire une petite rétrospective de 2025.
Oui. Mais on est intéressé aussi par les cadeaux ou pas du tout, nous?
Non.
Non.
Tu ne peux pas jouer pour les cadeaux. Première question.
On a le droit à un petit 4 heures.
Attention, première question pour vous les GG. Celui qui est le plus proche gagne. Combien de temps a duré la dernière finale de Roland-Garros entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz?
4h45 à 4h30.
C'est une réponse, ok.
4h30.
4h31.
David?
4h35.
Alors, bonne réponse pour David, parce que c'était 5h28.
Mais non, j'ai dit 4h45 moi.
Oui. Ah oui, non, c'est vrai.
Bah oui, allez là. Mais non, mais c'est, elle a pas duré 5h28 la finale.
Si.
Vous êtes sérieux?
Sport,
attends, j'ai dit 4h45, Fred. Bah donc poil poil camembert, mais 5h28, ça paraît vraiment énorme. Ok, bah top, un point pour nous.
Allez, premier point pour l'équipe de Christophe, Alizé et Clément. Deuxième question pour les GG. À quelle place du Ballon d'Or Kylian Mbappé a-t-il terminé cette année?
C'est 3.
3, ouais, je vais dire 3.
5,
6.
Bon, on va donner la bonne réponse à Chris qui était le plus proche. C'était 7.
Ah ben voilà.
C'était le chiffre du week-end pourtant.
Ah, c'est bien, t'as dit combien? 5
6.
6, pas mal.
T'étais pas loin du tout. Patricia, Clément, question pour vous, les auditeurs. Je vous demande qui a fini le dauphin du PSG la saison dernière en Ligue 1. Aïe, c'était plus dur que ce que je pensais.
Marseille.
Bonne réponse, Patricia. Effectivement. Heureusement que tu es là pour apporter des points à Fred et David.
Merci beaucoup.
Parce que sinon,
Christophe, concentre-toi.
Attention, troisième question pour vous, les GG. Armand Duplantis a battu à plusieurs reprises son record du monde du saut à la perche cette saison. À combien s'élève-t-il aujourd'hui ?
C'est dur, ça. 6m14.
6-19.
6-14, moi j'ai dit.
On va faire au plus proche aussi.
6-27.
David ?
6-20. Ouais, il est à 6-22, un truc comme ça. Là.
La bonne réponse sera pour Fred, qui est 6m30, le record du monde aujourd'hui.
Solide. Hein.
Nous avons donc une égalité de partout pour le moment. Quatrième question pour les GG. Lors du dernier Tour de France, quelle étape a été remportée par Valentin Paré-Peintre ?
Le Ventoux ?
Oui,
bravo Christophe.
La 16e étape sur le Mont Ventoux, effectivement, ça fait 3 à 2 pour l'équipe de Christophe et Alizé.
Allez Nice.
Question pour les auditeurs, Patricia et Clément. Quel club a été sacré champion d'Angleterre la saison dernière ?
Manchester City.
Non. Arsenal. Patricia, tu as une chance.
Arsenal.
Non plus. Allez.
Ils ont le droit de proposer.
C'est perdu. Non, c'est perdu. C'était Liverpool qui a remporté le championnat. Je pensais avoir fait des questions faciles. Pas tant que ça, finalement. Cinquième question pour les GG. On est à 3-2, hein, toujours. Attention, c'est très serré. Avant Loïse Boisson, qui était la dernière Française à avoir atteint les demi-finales de Roland-Garros ?
Mario Bartoli.
Bonne réponse.
Là, j'ai pas tremblé, j'ai pas choke, comme dirait Fred.
C'était en 2011, tu te souviens face à qui ou pas ?
Non, faut pas trop m'en demander. Non.
Francesca Schiavone.
Oui, qui avait gagné dans la foulée.
Oui, c'est fort probable.
Ou alors elle fait finale.
Donc on est à 4-2 là ?
On est à 4-2 pour l'équipe de Christophe et Alizé. Fred, n'hésite pas à participer au quiz si tu veux.
Alors moi je participe, mais j'aimerais bien que David participe. Oui. J'ai pas entendu sa voix.
David,
en fait.
David est en train de préparer la dinde pour ce soir.
Sixième question. Isaac Hadjar est monté pour la première fois sur un podium en Formule 1 cette année. Je vous demande à quel Grand Prix. Il fallait m'écouter parce que je l'ai dit tout à l'heure. David, c'est pour toi là.
Pays-Bas.
Bonne réponse, Kylian, Fred.
Kylian, arrête de te souffrir.
Regarde, tu le vois en face de toi, Kylian, il fait rien du tout.
Ouais, c'est ça.
Ça fait 4-3.
C'est quoi ce piston là ?
Non mais je savais pas, Florent.
Fallait juste m'écouter. Hein. Vraiment, je l'ai dit tout à l'heure.
Pardon, Florent. Tu pensais que je savais vraiment ça ? Non ?
Question pour Patricia et Clément. Celle-là, j'espère qu'elle est facile quand même, mais bon. On
Allez,
sait
Clément.
Qui a remporté Roland Garros chez les hommes cette saison ?
Sinner.
Eh ben non.
Bah, c'était l'autre.
C'est Alcaraz.
Clément.
Alcaraz.
Ben oui, du coup, c'est la bonne réponse.
J'ai cru que vous alliez pas y arriver, les gars.
C'était effectivement Carlos Alcaraz. On est donc à 5-3 pour l'équipe de Christophe, Alizé, Clément face à Fred, David et Patricia. Question à élimination.
Oula.
Je vous demande de me
donc
citer.
C'est 2 points, hein, pour le.
C'est 2 points pour ceux qui remportent cette question. Je vous demande de me citer les 16 équipes à avoir disputé les 8e de finale de la Ligue des Champions la saison dernière.
Là, je sens rien, ça va.
Enfin, c'est facile, les amis. Au moins, vous pouvez m'en donner au moins 10. Oui. Qui veut démarrer ? Parce que là, j'ai l'impression que
PSG.
Bonne réponse, effectivement. Fred.
La Juve ?
Non.
Non.
Au revoir, Fred. Chris.
Les quoi, les 8e de finale ?
Oui.
Liverpool.
Bonne réponse. David.
Manchester.
Lequel ?
City.
En même temps, je te demande lequel, il n'y avait aucun des deux en 8e de finale. Donc, comme ça.
Donc voilà, c'est gagné.
Donc voilà,
on a gagné. Pourtant, j'allais dire le Barça, j'avais raison.
Oui, t'avais raison. Le Barça, effectivement.
Ah non.
Oh, mais c'est une victoire écrasante.
Il y avait quand même le Real Madrid que personne n'a cité.
Est-ce qu'il y avait Milan ?
Il y avait l'Inter Milan.
Putain, bah, j'y étais là quand même.
Il y avait Lille, autre club français qui était en 8e de finale quand même. Après, il y avait Dortmund, Arsenal aussi. Plus compliqué pour trouver le club Bruges. Celui qui me trouvait le club Bruges, je pense que je lui donnais un petit point supplémentaire. Quand même.
Au bout d'une seule question, quand même, c'est très fort. Là, je dois dire que vous avez été performant, les colosses, là.
7-3. Bon, on continue quand même pour le plaisir. Ouais.
Allez.
Question pour les GG. Louis Bielle-Biarré est devenu le joueur français à marquer le plus d'essais dans une seule édition d'un tournoi des 6 nations. Combien d'essais a-t-il marqué ?
8.
Bonne réponse.
Oh là là là, mais c'est vraiment.
C'est question tennis et rugby.
Mais arrête, voilà, on a eu Formule 1.
Il n'y a rien sur le basket, il n'y a rien sur le judo, il n'y a rien du tout.
Question, Fred, est-ce que pour le panache, tu veux ta question impossible?
Vas-y.
Je savais que tu allais vouloir jouer. Question impossible, Fred.
Mais impossible.
Moi, je te ferai pas gagner le quiz, même si tu y réponds, c'est vraiment pour la gloire. Vraiment.
Ok, ça ne sert à rien.
En quelle année Portland a remporté son seul titre NBA?
Waouh!
Ah bah, c'est question impossible!
On peut tous jouer ou après?
Tu peux.
Vas-y, Fred.
Allez, à 5 ans près, parce que je suis sympa.
À un siècle près, tu peux gagner.
75.
Eh, hey, t'es presque! 77.
J'allais dire 82.
77, belle année en plus. Magnifique année.
C'est vrai. Finalement, t'es pas si loin que donc ça. Mais la victoire.
Tu lui donnes un point quand même?
Non, allez, deux points.
Deux points,
un point. Tu t'as pas donné
la bonne année. Elle a dit à 5 ans près.
Oui, d'accord.
Bah donc, c'est deux points.
Dans tous les cas, c'est défaite, en fait, Fred. La victoire est largement pour Christophe Alizé et donc pour Clément, qui remporte le PC portable aujourd'hui. Bravo à toi, Clément. Tu peux dire merci à ton équipe quand même, parce que c'est grâce à eux.
Merci à l'équipe, ouais, merci beaucoup.
Merci à vous deux. Si, je peux dire.
Les questions étaient très orientées.
Ouais, vraiment.
Non, mais comme vous êtes mauvais perdants, ce qu'on retiendra, c'est à quel point ils sont mauvais perdants.
Super équitable.
Merci à Patricia et Clément et bonne fête à tous les deux.
Jouez au jeu du sport sur RMC et gagnez un PC portable Altic 16 pouces garanti 3 ans. Altic, la marque française d'ordinateurs basée à Nantes. Rendez-vous sur altic.com.
Ne pas connaître quand même un seul club qualifié pour les huitièmes de finale.
C'est vrai que
c'est une grande performance quand même.
Je pensais pas que ce serait si difficile.
Si, on en a cité, mais c'était pas qualifié.
11h58 sur RMC. Merci à tous les GG d'avoir été avec moi.
Bravo pour ce week-end.
Merci, les amis.
Merci beaucoup. Merci à tous. Passez de belles fêtes. On se retrouve l'année prochaine, en 2026. Ce sera avec Georges Quirino qui reprendra les commandes des GG. Vous restez bien sur RMC dans quelques instants. C'est le best-of de l'année de Stephen Brunch. Très belle journée sur RMC. Ciao.